On nous a tellement censuré qu'aujourd'hui on a appris à devenir poli quand on nous donne la parole. Donc ça reste fessel mia quand même.
On n'est pas sur France Intox, attention.
Non. Voilà. Non. Ce que je voulais relever par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui en Algérie, c'est vrai qu'il y a eu, un grand rassemblement qui s'est passé pacifiquement, et le monde ne fait qu'accroître de vendredi en vendredi. Et par rapport à cette manif. Il y a une chose qui est très importante que moi je l'ai relevé, c'est qu'il y a un élan de solidarité qui s'est créé en Algérie du jour au lendemain, sur lequel nous ici, la diaspora ici à Marseille, on essaierait normalement du mieux qu'on peut de les copier, parce qu'ils sont en train de nous donner vraiment une leçon sur le civisme. Sur ce point, parce que nous ici on commence un petit peu, il y a un peu de dispersion, chacun cherche à tirer la couverture par rapport à lui, alors que normalement aujourd'hui on devrait suivre ce qui se passe en Algérie par rapport à ça, on devrait être dans la continuité des mouvements qu'il y a en Algérie afin d'exercer des pressions sur le politique européen ici, parce que à chaque fois qu'on manifeste, plus on est nombreux, plus nous exerçons une pression, plus derrière il y a une pression qui se fait de l'autre côté, c'est-à-dire obliger même si la France ne veut pas s'ingérer pour ne pas passer pour le colon, mais obliger la communauté européenne à réagir face à ça, et que ce monde européen, cet idéalisme européen, qu'il arrête de soutenir tous ces régimes qui sont dans toute l'Afrique, pas que l'Algérie, et on espère par le mouvement de l'Algérie puisse servir pour tous les autres, afin que chacun puisse vivre dignement, sans se regarder de quel bord on est, de quelle casquette on est, de quelle religion on est, quelle pratique nous avons et tout ça. Et appeler aussi au rassemblement de dimanche à la Porte d'Aix, je précise bien à la Porte d'Aix, à 14h, et suivre les directives des organisateurs. Si les organisateurs demandent une marche, en marche à telle heure, c'est-à-dire, je sais de quoi je parle par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. Et ne tombez pas dans le piège, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui vous disent ne chantez pas. Celui qui a envie de chanter, il chante. Celui qui a envie de danser, il danse. L'essentiel, c'est de se rassembler et être le plus nombreux possible et d'essayer d'être présent civiquement, montrer qu'on est aussi civilisé que les gens qui sont de l'autre côté. Nous avons la chance aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas censuré sur la parole ou sur les gestes. Et pourquoi pas? Voilà. Après, je laisse la parole.
Oui, allez.
Maintenant alors, je vais vous donner mon avis par rapport à ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février. Alors, il y a des masses populaires qui sortent chaque vendredi. Ils ont atteint 17 millions d'Algériens. Je pense que c'est une grande première de l'histoire de l'Algérie d'avoir un peuple aussi uni, rien qui les divise. Ce qui fait plaisir aussi, c'est tous les artistes algériens qui sortent manifester aux côtés des Algériens à leur manière. Après, ce qui est un petit peu ce qui cause problème en Algérie maintenant, c'est où est l'élite politique, qui est là comme représentant, que ça soit des Melmoarada ou bien non, qui pourra être là pour une Algérie meilleure. Pour moi, par exemple, si vous fermez les yeux 10 secondes, vous voyez absolument personne qui pourrait reprendre le pouvoir en Algérie. Après, si on parle de Zerwell et tout ça, ça reste encore une question beaucoup plus complexe, mais voilà. Ce qui se fait en Algérie maintenant me rendrait toujours fière, et c'est un petit peu ce côté-là qui me laissera toujours d'être fière à cette appartenance. Ils ont prouvé en monde entier ils ont rendu la dignité aux Algériens, c'est ça. La dignité qu'on a perdue avec la représentation du cinquième mandat pour Bouteflika, pour un cinquième mandat. Les Algériens ont rendu cette dignité sur l'échelle internationale. Voilà.
Moi, je voulais. Merci.
C'est pas une chevronnée de la politique. C'est une très très jeune fille qui est en train de s'exprimer. C'est formidable. Ouais,
bravo. Voilà. C'est important d'avoir la parole des jeunes, comme tu dis, Aziz. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais concernant, en effet, le rassemblement qui aura lieu à Marseille, donc ce dimanche 31 à 14h à la Porte d'Aix. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'expliquer pourquoi un rassemblement et non pas une marche, pourquoi à la Porte d'Aix et non pas au Vieux-Port, parce que beaucoup, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup se posent ces questions. Alors il faut garder à l'esprit que ce dimanche, il y a les dimanches de la Canebière qui sont organisés, donc pas mal de rues seront bloquées, il va y avoir beaucoup de monde notamment sur le Vieux-Port. Si vous regardez le programme de ce dimanche, donc au même dans la plage horaire qui nous intéresse, il y aura des concerts qui seront organisés et qui auront lieu sur le Vieux-Port. On ne pourra pas s'exprimer et on ne pourra pas faire avoir l'action qu'on voudra mener à ce moment-là sur le Vieux-Port. Donc c'est clair que nous préférons que ce soit sur le Vieux-Port, mais le Vieux-Port ne sera pas disponible ce dimanche. Donc exceptionnellement, donc on parle bien de ce dimanche-là, on verra pour les dimanches à venir, mais ce dimanche-là, ça sera un rassemblement qui aura lieu. Alors pourquoi un rassemblement aussi? Pareil, donc c'est toujours pour les mêmes raisons. On préfère se rassembler tous sur la Porte d'Aix et non pas marcher pour les mêmes raisons, parce qu'il y aura beaucoup de monde, il y aura pas mal d'organisations, des concerts et des choses qui vont être organisées ce dimanche-là. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé donc d'organiser un rassemblement et à la Porte d'Aix et non pas au Vieux-Port. Donc c'est important d'en parler autour de vous. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook. Sur la page Mon Algérie Marseille, Jaza Iruna. Donc n'hésitez pas à y aller, à aimer la page, à partager l'événement et à en parler autour de vous. Autre chose aussi, je sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi de garder à l'esprit ce côté pacifique de tout ce qui s'organise autour de ce mouvement, et aussi de s'unir. Moi, quand je vois ce qui se passe à Paris notamment, moi j'en pleure, on en parle la semaine dernière, de voir que moi je suis absolument pas politisée, enfin j'ai aucune connaissance là-dedans et ça ne m'intéresse pas de toute manière, je ne suis pas militante, mais tout ce que, enfin moi j'ai envie d'être, de me mobiliser et de me donner à fond pour cette cause-là et pour l'Algérie. Et donc quand je vois que, par exemple, alors sans parler de ce qui se passe en Algérie, c'est juste génial, ils sont un exemple et on en parle de partout, mais à Paris par exemple, ils arrivent à s'organiser tous autour d'une seule et même raison, qui est pour que le système parte et que ce régime tombe une bonne fois pour toutes, mais et en mettant de côté leurs idées politiques, les questions autour de la religion, tout ça. Donc je ne comprends pas et je n'arrive pas à savoir pourquoi ici à Marseille on n'arrive pas à faire ça.
Parce que c'est Marseille.
Ouais, mais il faudrait qu'on arrive à faire ça. Moi je ne sais pas, enfin je vous pose clairement la question.
Ça va venir,
j'espère, Inch'Allah, je garde espoir. Moi je suis optimiste, mais bien sûr je te donne le micro.
Eh ben excuse-moi, je vais juste te répondre par rapport à ça. Au fait, ici, Marseille, ce qu'il y a de bien et de pas bien à Marseille, c'est que Marseille, c'est une ville où tout le monde vient et part. Ça reste une ville portuaire où il y a des arrivistes et des départs, des arrivistes et des départs. Alors, il y a certaines personnes qui sont issues de notre communauté, et donc je précise bien ça, qu'ils arrivent d'ailleurs, là où ils ont tenté leur chance, mais qui n'ont pas réussi ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent ici en essayant de récupérer, en se montrant ceci, cela. Et ces gens-là ne connaissent pas Marseille. Et Marseille, c'est spécial et c'est spécifique. Et pour pouvoir réunir et sortir les Marseillais, il faut parler des problématiques de la communauté algérienne qui vit dans les quartiers nord, parce que la plupart des gens qui viennent et qui parlent de Marseille ne connaissent pas Marseille. Ils connaissent de Marseille le Vieux-Port, la Canebière, Notre-Dame-de-la-Garde, le Prado ou j'en sais quoi d'autre. Mais Marseille, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans les quartiers, il y a une souffrance et je parle autant que Marseillais là. Donc à Marseille, il y a des gens à chaque fois qu'il y a des politiciens ou des représentants pour la communauté. Qu'elle soit algérienne ou comorienne, elle en tire bénéfice pour son association, pour elle-même au détriment d'être un électeur, de récupérer des électeurs pour les partis de gauche ou les partis de droite, afin, et derrière, ils leur donnent des appartements et tout. Donc la plupart des gens qui sont à Marseille ne font pas confiance à ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, nous aussi, il y a certaines personnes qui sont arrivistes de je ne sais d'où, parce que quand je fais le calcul, je leur donne à peu près 105 ans entre leur carrière politique et là où ils ont vécu un peu de partout. C'est un peu d'humour, on est algérien quand même. Et par rapport à ça, eh bien, la seule chose qu'ils ont dit, attention, ces gens-là, ils sont en train d'essayer. Ah, je casse tout le monde aujourd'hui. C'est bon, il y en a marre de se taire. Attends.
Faut qu'on soit aussi positif qu'Alger, attention. Hein.
Ouais. Non, mais je reste positif dans la diplomatie quand même. Mais faire prendre conscience aux gens que, attention, les gens qui vous disent faites attention aux manipulateurs, eh bien, derrière, c'est eux les manipulateurs parce que c'est eux qui cherchent à récupérer pour eux-mêmes. Et moi, je me suis présenté dans ce collectif, je suis apolitique, mais je me suis autant que, on ne va pas dire que je suis un dictateur, j'ai dit je ferai tout ce qui est de mon possible pour qu'aucun parti ou aucune association puisse en tirer un bénéfice pour elle-même. S'il y a un bénéfice à en tirer, c'est pour toute la communauté, parce que cet avantage que nous avons, nous, aujourd'hui, grâce à ce hirak qui est en train de se faire en Algérie, c'est que nous aussi, derrière, on peut construire quelque chose pour la communauté algérienne qui vit ici, et on aura un poids très important, et on sera aussi écouté dans ce pays. Et donc, il faut mettre ses égos, son intelligence, tout ce qu'on veut, on les met de côté, mais on dit dans l'intérêt commun. Et après, dans une société, elle est faite de tout le monde et de tout. Chacun, il a une capacité, il peut apporter là où il est le meilleur dans ce qu'il sait le faire. Voilà, je te laisse. Non, mais
très rapide. Avec quelqu'un au téléphone ?
On a deux personnes.
Timo, bonjour. C'est Mehdi qui est en ligne. Juste pour vous, pour une petite contribution sur ce qui se passe en Algérie. Tout d'abord, j'aimerais rappeler une chose qui est importante, c'est que ce mouvement-là, on peut l'appeler révolution. Et puis ce que j'ai mis dans le terme révolution, c'est qu'il y a le mot rêve. Et je pense qu'aujourd'hui, les Algériens partagent des rêves. C'est que... c'est bon, c'est ok. Vous m'entendez pas depuis le début. Donc en fait, juste pour vous dire que ce que j'aimerais rappeler sur ce qui se passe en Algérie, ce mouvement, c'est je n'ai pas peur d'utiliser le terme de révolution parce que j'aime bien le terme de révolution puisque dans révolution il y a le mot rêve et je pense qu'aujourd'hui les Algériens ont envie de rêver. C'est une révolution qui est poétique. C'est une révolution qui est positive. Et c'est une révolution dont certains donnent déjà le nom de révolution du sourire. Et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir d'un pays dont on entend depuis une vingtaine d'années que des choses négatives, que ce soit là-bas ou ici, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Algérie renvoie depuis une vingtaine d'années une image très négative. Et là, je tire mon chapeau à toute la population algérienne parce qu'ils sont en train de renverser la médaille alors que personne s'y attendait. Et là, ils renvoient un signal positif dans le monde entier, et ça c'est vraiment une des grandes réussites de ce mouvement. Donc ça c'est le premier point que je souhaiterais rappeler, c'est une révolution positive qu'on appelle la révolution du sourire. Il n'y a qu'à voir les pancartes humoristiques, il n'y a qu'à voir l'autodérision de la population algérienne par rapport à ce qui se passe, des scènes de théâtre où les gens se déguisent en homme politique. C'est vraiment, on a quelque chose d'assez poétique, quoi, d'assez théâtral. C'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que, en ce qui concerne, pour répondre par rapport à ce qui se passe, la suite, juste pour répondre à la jeune fille, moi je pense que la grande force des Algériens aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans le présent. Ils se projettent pas à l'avenir. Et ce que je remarque, c'est que la communauté à l'extérieur de l'Algérie pense déjà à l'après. Et la grande force des Algériens, c'est qu'ils sont dans le présent. Ils disent, nous, notre priorité aujourd'hui, c'est de sortir ce système, c'est de changer de pouvoir. La suite, les dissensions internes, etc., on verra ça plus tard. Et je crois que la grosse force, et c'est pour ça que ce mouvement aujourd'hui est un mouvement qui est unifié dans toute l'Algérie, de Taman Rasset à Béchar en passant par El Oued et Alger, c'est que tout le monde est derrière une même cause, et cette cause, c'est la fin de ce système qui date depuis 1962. Et je trouve que la communauté algérienne n'a pas la maturité du peuple algérien dans ce sens, où nous, on pense déjà à quel est le leader pour demain, quelle récupération va-t-on faire ici ou ailleurs par des associations ou autres. Ça, je trouve que c'est le deuxième point que je voulais souligner. Et le dernier point, c'est en ce qui concerne Marseille. Et merci à CIEM pour les informations pour ce dimanche. Moi, c'est vrai que la principale remarque que j'ai eue, c'est que Marseille, qui abrite dans le monde entier la plus grosse communauté algérienne au monde, ça peut être considéré comme l'une des 10 plus grandes villes algériennes, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 500 000 Algériens qui vivent dans la région Bouches-du-Rhône-Marseille, donc ce qui en fait quasiment une grande ville algérienne, c'est que les gens sont très peu mobilisés parce que je pense que les gens sont encore marqués par ce qui s'est passé dans les années 90 et que le sursaut populaire qu'il y a eu a été tellement instinctif que personne n'a vu venir les choses. Et je pense que les choses vont venir progressivement et je suis assez optimiste sur les prochaines échéances et je pense que la communauté algérienne à Marseille va jouer un rôle croissant et de plus en plus important, d'autant plus que voilà, nous faisons face à Alger et à Marseille, on a le devoir de faire écho à ce qui se passe là-bas, que ce soit pour les Algériens d'origine algérienne, mais également pour des Algériens d'autres confessions ou autres qui partagent l'amour de ce pays-là. Donc rendez-vous dimanche, voilà. Okay. Et puis, unis, voilà, ça c'est le terme, soyons unis, faisons comme ce qui se passe là-bas, voilà.
On passe quelqu'un à l'antenne. Ouais. Allô, allô ? Mais il a disparu. Allô ? Non, non. Allô ?
Allô ?
Non, il n'y est pas, il n'y est pas. Ouais. Voilà. On le reprend plus tard. Voilà, donc vous avez entendu la parole de Mehdi, hein, c'est lui qui vient de parler là, qui ne s'est pas présenté. Mehdi est aussi il est du collectif, je suppose. Oui, non, voilà, donc Mehdi du collectif, donc il vient de parler. Alors, donc il est 19h14 et vous êtes sur les ondes de Radio Galère 88.4. Vous pouvez nous appeler au 04 91 08 28 10 et bien sûr, on va souffler un peu. On va vous passer une chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va passer à la Casa del Moradia.
Qui est une chanson des supporters de l'USMA, donc de l'USM Medina d'Alger, qui a été repris dans les manifestations et qui, en traduisant quelques mots, est une image de la série télévisée Netflix Casa del Papel. Et en fait, ils reprennent notamment sur le premier couplet en quatre temps les quatre années de mandat. Donc la première année, on pourra vous faire la traduction plus tard, mais ils reprennent ça en cinq temps, en quatre temps, et le dernier couplet parle d'un potentiel cinquième mandat qui en fait n'aura pas lieu. Voilà, on vous laisse écouter. Bonne écoute.
والباصي يا ما ونشي فيه ضفوة الحرية.
Radio Galère, tout le monde est sorti, ils ne sont pas là, les, nos amis, installez-vous là. On reprend la discussion parce que il est 19h22. Vous pouvez nous appeler aussi au 04 91 08 28 10 pour donner votre avis aussi, si vous avez aussi des informations à donner. Vous pouvez donc dimanche 31 mars 2019, donc ce dimanche-là, après-demain, venir sur la porte d'Aix à partir de 14h, il y aura le rassemblement en image à ce qui se passe en Algérie.
C'est une musique spécialement pour le rassemblement.
Alors, écoutez la musique spécialement pour le rassemblement.
Alors oui, on va vous mettre, juste avant que le temps que tout le monde arrive, on va vous mettre une dernière chanson de Gnawa Diffusion qui est sortie il y a quelques jours en hommage aux manifestations. Donc la chanson s'appelle Rojo. Donc ça peut pas être plus clair.
Rojo, monsieur Rojo.
Voilà.
يا اللي مسحتوا الحاسه جاز المرض وسلوك المحلازة. روحوا 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 خير ليكم تروحوا. روحوا 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 خير ليكم تروحوا. هادي الجيش جديدو خرجت تتقلب هاد القاعدة. خبرتو يا الخبال مريضة وبشفع ليكم وعلى زائدة. يا ملا حنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تتلو في تخرويضة باش تديروا لنا خشبة مرويضة خشبة مرويضة. روحوا 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 خير ليكم تروحوا مع دوك الأئمة اللي محرشين على الأمة وضيف الدين في صالح الحكومة. سرق سبارتو في كل مؤسسة لا خدمة لا ردمة وعنيهم غير العزة. في كل فطنة قولوا هذه فتنة حتى كل شفتنا وما لقيناش اللي فدنا. خلاص القياد وعلينا طار العز ولادنا جاو يغلقوا عليكم الأواز. خرجوا 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 لزالجيريا خرجوا 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 لزالجيريا خرجوا. يا شياطين يا القماعين يا الحابسين المكرشة البلاعة المدغة والحسادة بيتو المنون لكتون ولون حتى الشبروان وبلا سمير ديو المدير ديو الوالي ديو المير شوية كاشير للفقاقير ايه الحقاقير ايه الحمامير ايه البقاقير ايه البعير مجرمين كريم خداعين شلدين حضارين استعمار داوية معمار الكتابين عينا منكم زوايلكم سبايبكم كاينكم وشبكلكم.
Radio Galère, tout le monde est installé là. Mohamed, le débat entre vous, c'est fini. Maintenant, on va passer à autre chose là. Et fermez la porte, sinon on entend les gens de dehors. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Je donne à Jamel la parole là. Jamel, à toi.
Oui, Aziz. Donc, je voulais juste en parler. Je ne sais pas si c'est important pour vous aussi ou si vous avez eu l'écho hier qu'ils ont arrêté le patron de Chorouk. Donc je pense c'est à cause d'une vidéo qu'il a publiée sur Saïd Bouteflika, comment il est devenu l'homme fort, donc je n'ai pas du départ. Et puis le matin, ils ont dit qu'ils l'ont arrêté, donc on était tous partants par conscience professionnelle de le soutenir et de condamner cette arrestation. Et puis après, quand ils l'ont lâché, on voit le monsieur qu'il est venu normal, c'est-à-dire il n'a pas de troubles psychologiques par rapport à l'acte qu'il a été fait contre lui, comment il a raconté l'histoire. Parce qu'il dit qu'il y avait trois voitures qui l'ont poursuivi, l'ont arrêté comme de la mafia, avec des Kalachnikovs et tout ça. Mais après, on se posait la question, est-ce que ce n'était pas un scénario? Donc, je veux vous lire l'avis de M. Kamel Daoud, avec qui je partage énormément de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Moubaya'a de Chorouk pour Gaït Salah. Donc hier, le patron de Chorouk, hier, quand ils l'ont lâché, il a parlé clairement et il a dit que j'ai téléphoné à Gaït Salah. Il était en mission dans le désert, là où il y a les bataillons. Et c'est grâce à lui que j'étais lâché. Donc ça nous a fait un peu... je m'ai trouvé un peu ça bizarre. Donc la Moubaya'a de Chorouk pour Gaït Salah va être vieille tradition tribale chez ces gens-là. Des gens qui adorent être la seconde épouse de l'homme plus fort du moment. Cette fois, donc, attends, je m'excuse, hein, parce que je suis un peu... Donc, cette fois, cependant, la manœuvre est si grossière, c'est l'insultant pour la raison, c'est qui prendra sa place. Donc, Anis Rahmani est mort, donc vive Ali Fadil. Voilà.
Ça va. C'est une humeur de M. Kamel Daoud. Voilà. Alors, bah, si vous avez un commentaire à faire, sinon...
C'est-à-dire, Aziz, je m'excuse. Je voudrais juste dire à nos compatriotes, soit en Algérie ou soit ceux qui sont ici, parce qu'on sait bien que tous, on passe du temps sur Facebook. Et il faut savoir lire et contrôler l'info et ne pas aller vers la dérive, quoi.
Voilà. Combien de fois on a vu des véhicules circuler avec des immatriculations, des armes dedans, et après ça disparaît, quoi. Voilà. Comment il s'appelle ? Macron s'appelle, il appelle ça les fake news, non ? Il n'y a pas une loi sur les fake news en Algérie.
Fake news.
Voilà.
Moi, je voudrais rebondir. Pourquoi on fait ces mouvements, ces marches, ces rassemblements ? En fait, le peuple algérien, en général, dans ses marches, et si on veut être plus précis, dans la rue, le peuple qui sort dans la rue, dans ses marches, dans ses rassemblements, il a en quelque sorte des petites victoires dont il ne doit pas se contenter. Déjà, la première chose, c'est l'abandon du cinquième mandat, petite victoire. Deuxième, non au prolongement du quatrième mandat, deuxième petite victoire. Maintenant, c'est la mise à l'écart du président. C'est par l'article 102. C'est aussi une petite victoire du moment que la grande muette s'exprime et mais neutralise en quelque sorte le clan présidentiel. Mais nous n'avons pas encore la victoire. C'est aujourd'hui l'article 102 qui devrait être mis en application. L'AVC, ça s'est passé en 2013. C'est en 2013 qu'il devait y avoir l'article, qu'on devrait appliquer l'article 102 et non pas en 2019, à un mois de la fin du mandat, de la fin du quatrième mandat. Donc, c'est en quelque sorte une supercherie de plus. Donc, il faut qu'on soit vigilant parce que rien n'est gagné aujourd'hui. Il faut qu'on se mobilise encore dans le même civisme et surtout de façon pacifique et surtout de nous souder. Nous, au début, c'est une façon, ce sont des marches inclusives. Si avec le temps ça devient des marches exclusives et qu'on montre en quelque sorte et qu'on s'invective entre soi, entre peuples, partis, associations, acteurs de la société civile, acteurs politiques, ils vont gagner. Si on ne fait pas attention et qu'on ne se soude pas et qu'on se divise, nous allons droit vers l'échec. Nous avons l'expérience de 2001. J'insiste là-dessus. L'expérience de 2001 a été dirigée contre les partis politiques. Et en écartant les partis politiques, qu'est-ce qui a été ? 2001 était un échec. On n'a eu aucune transition et j'espère qu'on ne va pas répéter cet échec. Donc je voudrais qu'on avance et qu'on ouvre les yeux sur tout ce qui peut nous arriver.
Voilà, allez-y. Mina.
Oui. Non, je t'en prie, vas-y.
Comment tu peux...
Vas-y.
Après, je voulais dire, comment tu peux restaurer la confiance d'un peuple, enfin, je sais pas... Personnellement, je suis né en 98 et j'ai jamais eu un parti ou quoi que ce soit qui m'a vraiment apparu comme étant la solution.
C'est tous un coup de vieux là.
ouais, mais je suis jeune, je sais.
Je rigole.
Donc en 21 ans d'existence, bon, on exclut les 10 premières années, Malich, j'ai jamais vraiment cru voir un parti qui a été contre cette merde, enfin disons-le, cette merde dans laquelle le pays est. Enfin, après oui, si ça se trouve c'était des petits partis de 3 personnes, des micro-partis trotskistes, je sais pas quoi, mais ils n'ont pas été là. Et comment tu peux faire restaurer la confiance de tout un peuple de 2/3 d'Algériens, enfin, qui n'a pas connu un parti ou des partis viables.
Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est justement le moment de les faire émerger, d'où ma question de tout à l'heure. Il faut qu'on profite du débat démocratique qu'on est en train de se réapproprier pour réfléchir à... Excuse-moi, je vois que tu m'interromps, dis-moi.
Oui, non, mais du coup... Oui, bah du coup, il faudrait du sang neuf.
Enfin, c'est ça, voilà. C'est ça. Mais justement, tu évoques le fait que t'es né en 98. Nous, on croit énormément au renouvellement générationnel. On a passé plusieurs décennies à se faire voler notre représentativité. On se réapproprie l'espace public, les rues, la chose politique, les valeurs démocratiques, pacifiques, écologiques, de civisme. C'est le moment de montrer des nouveaux visages et c'est le moment de les faire émerger. D'où l'importance de choses comme ce qu'on fait ce soir. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on est en train de mener un débat d'initié, mais on est en train de se réapproprier la place publique, finalement. On est en train de permettre à ce mouvement de s'exprimer partout. On parlait tout à l'heure, notamment Sihem, tu l'évoquais, de l'importance pour les Marseillais de s'organiser. Ce qui est très drôle, quand le matin d'Algérie m'a proposé d'ouvrir la chronique, ils ont fait la blague à la rédaction en me disant « Marseille, c'est la 49e wilaya, finalement. Mmh. » On est super nombreux. Tout à l'heure, il était évoqué qu'on est 500 000 en région PACA. C'est impressionnant. Pourtant, 1000 personnes les dimanches, ce qui est une triste... Bon, peut-être un peu plus, d'accord. Mais en tout cas, on n'est pas le quart du nombre de personnes qu'il y a à Paris. Où finalement le mouvement s'épaissit énormément au fur et à mesure des dimanches, et j'ai fait un dimanche à Paris qui m'a beaucoup beaucoup impressionnée. Je pense que c'est hyper important de se réapproprier le débat, de discuter entre nous, y compris ici à Marseille. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est vraiment pas pour me faire de l'autopromotion, mais tous les sujets que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas. J'ai une page Facebook sur lematindalgerie.com qui s'appelle L'œil de Zina. Si vous avez envie de proposer des choses sur les réalités politiques, culturelles, économiques que vivent les Algériens ici à Marseille, notamment parce que c'est vrai que les Algériens, c'est pas seulement au Vieux-Port qu'on les croise, c'est Belles, c'est les quartiers nord, c'est des quartiers qui vivent des réalités économiques extrêmement différentes de celles qu'on peut traverser à Paris ou même ici autour de ce plateau. Donc c'est important, justement, quand on parle de représentativité transparente, de donner la parole à tout le monde et de réussir à attirer suffisamment de monde en leur donnant des biais de représentativité tels que ma chronique ou l'émission de Aziz ce soir.
Juste pour dire par rapport à ce que c'est pas Radio Galère aussi, c'est une radio des quartiers. Hein. Il y a beaucoup de plateaux de quartiers, etc. On a tous les jeudis du mois, on a l'écho de la Bucherine. Donc c'est une émission en direct du 14e arrondissement avec les acteurs de quartier, etc. On a pas mal de choses qui se passent dans le quartier qui passent à travers l'antenne de Radio Galère. Cette Radio Galère n'est pas France Intox, c'est pas... du coup, mais on n'a pas l'auditoire de France Intox, mais on a quand même des gens qui nous écoutent et qui de temps en temps, même les politiques de cette ville-là et de la région écoutent Radio Galère et de temps en temps ils disent ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc voilà. Hein. Au-delà qu'ils soient algériens, etc. Voilà.
Moi, je vais juste souligner un point. Après, moi, je laisserai la place. Il y a d'autres qui veulent parler. Tu veux dire quelque chose ?
Non, allez-y. Mmh.
Moi, je veux dire, par rapport à tout ce dont on parlait tout à l'heure, il y a un point qui, à mon avis, qui est fondamental dans le mouvement en Algérie. Au-delà de l'importance des foules, du mot d'ordre, de la nature du mouvement, tout ça, il faut dire, par rapport, par exemple, aux anciennes classes dirigeantes, les anciens militants, etc., je pense qu'il faut dépasser le sentiment de frustration, de dire « nous, on était là, etc. » On n'est pas là en 63 à se distribuer des cartes de maquisards ou des choses comme ça. Je pense qu'on est en présence d'un mouvement de mutation des sociétés. Je veux dire qu'aujourd'hui, la société a muté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se le dise. Je veux dire, la génération que nous avons portée, nous, c'est-à-dire que le mouvement 80, moi je l'ai vécu, le mouvement 2001, on l'a vécu, et tous les mouvements intermédiaires, parce qu'on a l'habitude de parler que des plus importants. Mais aujourd'hui, on assiste à une profonde transformation dans la société algérienne. Ce mouvement-là n'est pas né par hasard. Pas se lève le matin. C'est que c'est un mouvement qui a muté. Et en même temps, pourquoi moi j'ai de l'espoir dans ce mouvement ? C'est pas parce que par l'importance, c'est vrai que c'est sa capacité de mobilisation. D'abord, c'est un mouvement des réseaux sociaux qui échappe complètement aux mécanismes de communication qui étaient les nôtres à l'époque. À l'époque, il se passait quelque chose à Tizi Ouzou, on massacrait des étudiants à 15 kilomètres plus loin. Eh ben, on savait pas, on disait, je crois qu'on nous a dit, etc. Donc, on parle d'un événement qui se passe à 15 kilomètres. Aujourd'hui, il y a un événement ici, au Guatemala, ils sont peut-être au courant, au Mexique, aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, le fait que les réseaux sociaux ont induit un outil de communication qui est redoutable. Bah, après, on pourra en parler, ça qu'il a des effets pervers qu'il faut prendre en considération aussi. Mais en même temps, on est dans une profonde transformation de nos sociétés qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, l'optimisme, il vient parce que dans l'histoire des mouvements populaires, c'est les ruptures qui ont accordé. Donc il ne faut pas que les gens se disent, nous, les partis politiques ou des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a des compétences, bien sûr qu'il y a des militants dans les partis politiques, dans les associations, etc. Mais moi je pense, moi je ne jette la pierre sur personne, il ne m'appartient ni de juger les partis, ni les forces politiques, etc. Il y a des forces politiques saines dans ce pays, il y a des syndicats qui se sont battus. Tout ça c'est très important. Mais après c'est assez ces partis politiques de faire leur état des lieux. C'est pas à moi de le faire, de loin. Donc eux, ils vont se dire, moi j'ai 20 ans. Moi je l'ai dit à Saïd Sadiq, j'aime bien, c'est un grand intellectuel. Moi j'ai dit, moi, on a le droit, un droit d'inventaire. Quand on a un parti pendant 30 ans, on se dit, est-ce qu'on a mobilisé des gens? Parce que tout à l'heure, on parlait avec notre ami Asdin sur du FFS, mais on peut dire aussi d'autres partis. C'est-à-dire, quand on a 20 ans d'existence, il ne s'agit pas de dire que ces militants n'ont pas servi, n'ont pas de conviction. Pas du tout. Moi, je respecte les gens, éminemment les personnes, les jeunes, les responsables, tout ça. Chacun, à son niveau, a essayé d'activer. Le problème, c'est que la nature du régime, c'est qu'elle a broyé ces partis politiques. Elle leur a désigné des vitrines par rapport à l'Occident. Voilà, j'ai de l'opposition, j'ai 9 députés RCD, j'ai 14 députés FFS dans mon assemblée, donc j'ai une assemblée représentative. Après la question, est-ce que ce rôle il te convient ou pas? Moi je suis à l'extérieur, moi je ne suis pas dans ces partis, donc c'est à eux de dire, jusqu'ici voilà notre parcours, et voilà ce que nous devrons faire. C'est pas à moi de leur dire, moi je suis qui pour juger les gens? Je ne juge ni les individus, ni les organisations. Mais moi je constate. Mais ce que je sais, c'est que ce mouvement, il est venu de la profondeur de nos sociétés. Moi je suis un militant de base, moi j'ai toujours été dans l'associatif, dans la société civile. Moi on a construit des réseaux de théâtre, de choses comme ça, avec les moyens qui sont les nôtres. Après d'autres ont fait d'autres choix, c'est Charles Nelson. Moi je veux dire, je jette la pierre, ni le truc. Et je ne dis pas que je suis plus important que tous ces gens-là autour de la table ou qui sont même ailleurs. Là n'est pas la question. Mais la question c'est qu'aujourd'hui, moi j'analyse ce mouvement et les débats qui porte justement en Algérie, au-delà de ce que tu dis, sur ce qu'on va faire, etc., qui sont des questions éminemment importantes. Mais moi, ce que je sais, c'est dans l'histoire, ce sont les ruptures. Il faut rompre avec un certain mouvement de la société jusqu'à maintenant qui ont justement, qu'on n'a pas su capitaliser autant d'efforts. Donc, je pense que ces débats sont très importants, mais en même temps, ils interpellent l'ensemble des Algériens, jeunes, etc. Moi, je dis juste une chose, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Quand on observe, moi, je reviens de là-bas il y a 3-4 jours. Donc, j'étais là-bas, j'étais à Alger, j'ai rencontré des gens qui venaient d'Oran, des montagnes, des petits villages. Figurez-vous, quand on voit la presse ou des grandes chaînes, etc., et même les médias, après je vais dire un mot des médias français, parce que je pense que le rôle des animateurs à Marseille, c'est d'attirer l'attention sur le danger des médias lourds, je veux dire. Moi quand j'ai vu des émissions où ils ramènent ce qu'ils appellent des spécialistes, il a lu 2 livres sur l'Algérie, il devient spécialiste de l'Algérie. J'ai dit, moi je le regarde, je l'écoute, j'ai dit... Ou c'est moi qui est complètement à côté, ou c'est lui qui a tout compris. Moi, je ne me retrouve pas dans l'Algérie dont il parle. Quand j'entends Benjamin Griveaux, au lendemain du premier mouvement, dire « Nous n'avons pas », c'est ses propres expériences, vous pouvez revoir d'ailleurs, il disait « Nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, des raisons de douter de la légalité d'un scrutin ». Je dis « Ce type-là, il se moque de qui ?» Depuis qu'on a organisé un scrutin en Algérie digne de ce nom, pour qu'aujourd'hui on puisse donner du crédit à celui-là de 2019. Donc vous vous rendez compte, ça pour dire qu'il y a des enjeux considérables, qu'il y a des intérêts considérables, et malheureusement les intérêts de ces puissants ne sont pas les mêmes que nous, en tout cas que les nôtres. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que les intérêts pétroliers, gaziers, économiques, les enjeux, etc., sont beaucoup plus intéressants à Jamaa que nos idéaux. La révolution dit, les Algériens sont contents. Ils sont non, les Algériens, ils savent ce qu'ils veulent. Quand on voit dans les écriteaux, ils parlent de la Deuxième République. Et quand les gens nous disent, Eh, mais vous n'avez pas d'élite. Mais si, moi dans la rue j'ai trouvé l'élite. C'est pas démagogique ce que je dis. Moi j'ai trouvé des jeunes extraordinaires. Il dit, monsieur, venez avec nous, on attend votre expérience. Moi j'ai été avec eux, j'ai dit, j'ai rien à vous apprendre. Vous, c'est moi qui vais apprendre de vous. Je vous dis sans démagoger, sans... Je vous remercie.
Alors moi je vais peut-être complètement partir ailleurs sans changer de sujet. Moi je suis quelqu'un qui est profondément convaincu d'une idéologie assez complexe, mais voilà. c'est que dans toutes les anciennes colonisations, que ce soit l'Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal et tout ça, il y a toujours une soumission coloniale, que ce soit la France ou l'Italie, les anciens pays qui ont colonisé l'Afrique, l'Afrique du Nord ou bien l'Afrique noire. Donc quand il y a un soulèvement dans le pays, c'est que oui, les Algériens peuvent changer les choses, peuvent améliorer leur situation, changer tout ce qui se passe dans le pays. Sauf que le seul et unique problème, c'est qu'il y a des enjeux économiques qui se cachent derrière. Donc que ça soit par rapport au pétrole, que ça soit par rapport à pas mal de ressources qui sont en Algérie. Donc il y a des enjeux. On est toujours rattaché à la France d'une manière culturelle, économique, intellectuelle. Tout ça fait en sorte que ça devient beaucoup plus complexe que ce que ça paraît. Donc il y a plusieurs pays qui ont fait plutôt des investissements en Algérie, et dès qu'il y a un soulèvement populaire, ils ont leurs intérêts qui sont mis en danger. Donc que ça soit la Chine avec leurs investissements dans le sud algérien. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision des choses par rapport à ce qui se passe en Algérie, mais vu d'un autre angle. Voilà.
Mais après, je pense qu'il y a des enjeux encore plus globaux. Enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense qu'il faut aussi voir ce qui se passe actuellement en Occident et même en Chine. Enfin, ils arrivent à un stade de saturation, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça on le sait tous. Et là, ça nous retombe sur la gueule. Ça retombe surtout sur la gueule de l'Occident, parce que enfin, en Algérie, on n'est pas super industrialisé, que je sache. Enfin, je suis pas spécialiste, mais je me permets de penser ça. Et pour moi, l'avenir du monde est en Algérie et en Afrique, et surtout, enfin, en ce qui concerne, parce que on n'est pas passé à l'étape d'ultra industrialisation dans laquelle l'Occident est. On n'est pas passé encore par cette étape-là, et c'est une chance, parce que enfin, il faudrait ne pas y passer, et passer directement à quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus viable. Et qui sait, peut-être dans 20-30 ans, là je vois encore très très loin, si tout se passe bien,
non, mais
peut-être que c'est les États-Unis l'Europe, ils seront là à nous demander s'il vous plaît de donner de l'électricité.
On fera toujours en sorte que ces pays qui ont été colonisés seront toujours soumis à l'ex-force coloniale. Vous voyez ce que je veux dire?
On appelle le néocolonialisme.
Ouais.
Mais c'est exactement l'actualité dans toute l'Afrique.
Voilà, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que le prochain combat après la libération de l'Algérie, Inch'Allah, c'est le franc CFA. Toute la libération de l'Afrique, et bien sûr, enfin.
On constate ça uniquement pour les anciennes colonies françaises, parce qu'on a un exemple à prendre des anglophones.
Oui, les anglophones, c'est complètement différent.
On prend des pays comme le Ghana ou comme ou la Tanzanie, le Kenya par exemple.
Le Kenya aussi.
Qui ont réussi à s'émanciper. Et, bon, après, c'est culturel. C'est vrai que la France a toujours eu une politique très assimilatrice avec ses colonies, alors que les anglo-saxons ont toujours favorisé le développement local.
Je pense qu'il y a une première. Problématique au niveau des accords des indépendances, oui. Déjà en Afrique, pour les anciennes colonies françaises. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a une forme d'aliénation, malheureusement, de ces peuples anciennement colonisés. Enfin, même si ce n'est pas le cas de tous, moi, il y a des termes qui me dérangent, que j'entends. J'ai entendu tout à l'heure le terme de civilisé. Hein. On montre qu'on est civilisé. Je pense qu'on l'a toujours été, en fait.
Voilà,
on a laissé entendre que c'était pas le cas. Voilà. Et je regrette d'entendre des Algériens, comme des Africains de façon générale, réemployer ces termes qui sont coloniaux et qu'ils ont intégrés comme étant...
des symboles.
Des symboles. Enfin, moi, je fais très attention comme ça aux mots et au sens des mots parce qu'ils sont importants. Mais je pense qu'il y a une... Pour une grande partie d'entre nous, et même souvent inconsciemment, parce que c'est fait inconsciemment, il y a ce genre d'expression, cette façon de toujours hiérarchiser l'occidental au-dessus de nous. Enfin, je fais une remarque, il y a une dame âgée avec qui, à qui je fais souvent la remarque, qui me parle... d'une cousine algérienne qu'elle trouve très belle en disant Dgouli Talianiya. Oui, mais c'est une Algérienne en fait. Ne serait qu'occidentale, alors que l'italienne ne dira pas elle est belle, on dirait une Algérienne finalement. Mmh. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'on a intégrées, qu'on fait souvent de façon inconsciente. Et je pense qu'il faudrait aussi faire ce travail. Quant à l'avenir prochain,
Justement, il y a un Italien célèbre qui parle de l'hégémonie culturelle, et je crois qu'on est dedans là. On ne peut coloniser quelqu'un, on ne peut soumettre quelqu'un que par son consentement aussi. Mmh. Et son consentement vient aussi par le gagner sur le plan culturel.
C'est pour ça que je dis, on est soumis d'une manière économique, culturelle, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, on est confronté, sans le vouloir, à être soumis à une force. Et voilà, c'est tout. C'est
pour
plus...
ça que j'adore la forme du mouvement, enfin, que le mouvement est en train de prendre. Parce qu'on voit vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir les gens aimer être algériens, encore, jusqu'à maintenant.
Ça a toujours été une fierté après.
Oui,
hein.
Non, mais c'est encore plus prégnant maintenant. Enfin, je sais pas, aimer l'Algérie, aimer le peuple algérien, pas seulement l'Algérie, reprendre, réinvestir ses villes, ses rues, le pays. Enfin, pour moi, c'est une révolution. Qui est révolution contre un nouveau colonialisme. Ce qui se passe en ce moment, c'est... Je sais pas si l'avenir me contredira, mais pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est de cet ordre-là, quoi.
Moi, je pense vraiment... Pardon. Vas-y, Aziz. Ah. Non, moi, je pense vraiment que c'est inhérent à la nature des Algériens. En fait, je pense que ça s'est jamais perdu, cette fierté. C'est-à-dire, en dépit de ce qu'ont subi les Algériens, de tout temps, il y a une vraie fierté, et c'était le cas même avant, je pense. En fait, finalement, même dans sa politique, le gouvernement a créé ça, ce qui lui fait du tort aujourd'hui, finalement. Hein. C'est d'entretenir ce sentiment de patriotisme, de nationalisme des Algériens qui se retournent contre eux aujourd'hui. Oui. Et ce qui est une bonne chose, d'ailleurs.
Juste un mot sur l'économie pour répondre aux différentes interventions. C'est vrai que le reproche de la population algérienne aujourd'hui à l'élite en place, au gouvernement, c'est qu'il a favorisé, pendant les années Bouteflika, en fait, un clientélisme et des affairistes. C'est-à-dire que malheureusement, au moment idéal où on pouvait diversifier l'économie algérienne avec un cours du pétrole, du dollar, qui était dans les années 2000 à plus de $100, hein, le baril pour le Brent, c'était le moment idéal pour pouvoir diversifier, relancer l'industrie, etc. Oui. Et le principal reproche de la population algérienne, c'est qu'on n'a pas profité de cette manne pétrolière. L'argent a été dilapidé dans des scandales d'État comme l'autoroute Est-Ouest, avec des procédés qu'on connaît qui sont limite mafieux, comme la surfacturation, le clientélisme, enfin Chipa et compagnie. Et donc du coup le principal reproche de la population algérienne, c'est que voilà, pendant toutes ces années là on pouvait faire de l'économie algérienne une économie, sortir de l'économie rentière pour en faire une économie de marché normal, hein, industrialisante, et je pense que ça aurait diminué le chômage, ça aurait réglé un certain nombre de problèmes. Et voilà,
je suis pas d'accord avec l'économie de marché, mais bon.
Enfin, l'économie de marché ou pas l'économie de marché, mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est que on a beau dire ce qu'on veut, critiquer le capitalisme ou pas, mais au moins ça a au moins l'objectif de donner du travail à tout le monde. Et aujourd'hui, en Algérie, il y a 40% aussi de chômage, donc voilà. Mais je suis d'accord. Bon, après, On peut avoir, c'est un autre débat, mais enfin, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse fabriquer des baskets en Algérie, qu'on puisse construire des automobiles, qu'on puisse avoir des vraies entreprises de BTP et pas faire venir des Chinois. Et tout ça, bah, on avait l'opportunité de le faire sur ces 20 dernières années, on l'a pas fait. Donc, let's make it again.
Mais par contre, les Algériens, maintenant, ils disent, c'est bon, on arrête de parler du passé, ce qui aurait pu se faire et tout ça. Il faut voir autre chose. On n'a pas que le pétrole sur quoi on pourrait se baser pour avancer. Il y a beaucoup de sources. Non, mais je veux dire,
le pétrole te donne de l'argent pour pouvoir investir.
Oui, mais il y a pas solutions. Que ça. Il y a des pays qui se sentent en s'endettant.
On peut s'endetter auprès du FMI, mais nous, on a eu la chance de ne pouvoir pas s'endetter et de pouvoir investir.
Mais on s'en fout maintenant de tout ce qui s'est passé au passé.
Bon, après, il faudrait préparer l'après-pétrole aussi. Hein,
exactement.
Parce que les ressources vont s'épuiser incessamment sous peu.
En tout cas, quand on voit les réserves de gaz en Algérie, on a quand même encore de belles années.
D'autres domaines.
Super, allons bousiller la planète pour construire des baskets.
Voilà. Attends,
parce que le fond du problème, il est d'ordre institutionnel. Le problème, il est d'ordre institutionnel. Donc, si le jour où on aura des institutions où le peuple est souverain, avec des lois, avec un état de droit, donc qui respecte les lois, et non pas le téléphone ou les privilèges des uns et des autres, ce jour-là, on va avancer. On va avoir même une économie... une économie florissante parce que on sait qu'on va pas être soumis à à la corruption, on sait qu'on va pas être soumis à la bureaucratie, et là on va libérer beaucoup d'énergie. Par contre, aujourd'hui, il faut 2 ans, 3 ans pour faire une entreprise en Algérie. Ouais, et quand on va au fisc, c'est un calvaire. On passe des journées entières pour obtenir un papier. Quelquefois, il faut revenir demain, après-demain. Quand est-ce qu'il va travailler s'il passe son temps à l'administration, cet entrepreneur? Donc, aujourd'hui, réglons le problème institutionnel. Le problème institutionnel viendra d'un gouvernement de transition qui va préparer une constituante. La constituante qui saura nous proposer une constitution que personne ne pourra rectifier, ne pourra amender à son goût sans s'en remettre au peuple. Et ce jour-là, on va aller dans de bons rails. Et puis, pour les partis politiques qu'on est en train, en quelque sorte, on dit, on doit s'organiser, le peuple va s'organiser. Il va s'organiser comme il voudra, et il prendra l'initiative qu'il voudra, chacun ira dans le parti ou l'organisation qu'il voudra. Et je veux dire justement à la jeunesse qui est ici, les partis politiques ne ferment jamais leurs portes. Je veux vous dire, parce que c'est moi qui... Je suis au FFS depuis un certain temps. Et c'est moi le responsable régional, en quelque sorte.
Il faut qu'on nous redonne le confiance.
S'il vous plaît. Justement, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Tu me l'as enlevé de la bouche. Je veux dire que aucun parti politique ne ferme ses portes, en tout cas. Et quand on cherche même des candidats de la société civile, il est très difficile de les trouver. C'est, croyez en mon expérience, aujourd'hui, aucun parti ne vous fermera la porte. Vous tapez à la porte et vous serez demain candidat aux législatives. Essayez à n'importe quel, à la porte de n'importe quel parti et vous allez voir si aux prochaines législatives vous n'êtes pas dans la liste des candidats et peut-être même tête de liste. Donc je vous lance un défi. En tout cas, je parle pour mon parti. Je pense que pour les autres partis, ils feront la même chose.
Militantisme ne s'arrête jamais.
Si on tape pas à la porte, on peut pas les dénigrer aussi. Donc, venez et vous allez voir si vous allez pas être à la tête. Donc, ça, c'est un défi que je vous lance. Mais je suis pas ici en train de recruter. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'excluons personne. Revenons aux problèmes institutionnels et C'est ça notre objectif, et il faut qu'on arrête avec les privilèges, les coups d'État, etc. Merci.
Donc, en gros,
on est un peu à la bourre. Il est bientôt 20h. Et l'émission va prendre fin. Donc juste pour revenir sur l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Donc un rappel, un rassemblement à Marseille. Venez en force à la porte d'Aix à 14h. Venez. Donc un rassemblement. Venez en famille. Venez nombreux. Venez avec vos sourires. Venez avec nous pour chanter, pour scander donc tous les slogans qu'on a et pour venir pour l'Algérie. Voilà, on organise tout ça. On entend vos remarques. On a entendu que les manifestations donc passées n'ont pas été très bien organisées et tout, mais on a besoin de vous. On a besoin de votre présence et venez nous aider. Venez nous parler. On sera là. On a préparé des pancartes. On y aura du thé. On vous a préparé des petites surprises. Donc venez. N'hésitez pas. Parlez à vos voisins, à vos amis, à votre famille et on sera là. On attend. On vous attend et on compte sur vous. Merci beaucoup et à dimanche, Inch'Allah. Merci.
Merci, Siham.
Je te laisse le mot de la fin avant de lancer.
Non, le mot de la fin, c'est nos amis de Démo 4 Paroles vont prendre la parole. Ça s'appelle Démo 4 Paroles. Hein? Et toi, tu nous balances. Voilà,
on va mettre une petite chanson d'un collectif d'Algériens, d'artistes algériens, qui s'appelle Libérer l'Algérie. Voilà, bonne écoute.
كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية